mais pour l'arrivée des pompiers bénévoles dans la caserne. Et j'étais tout petit et je me levais, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que la sirène sonnait, et je voyais tous ces hommes qui arrivaient, quitter parfois leur travail ou parfois leur vie et leur maison à 2h du matin, pour arriver en vélo, pour sauter dans leur combinaison de feu. Et j'étais éberlué de pouvoir voir une vingtaine, trentaine d'hommes arriver pour aller lutter contre le feu. J'habitais dans une région agricole et c'était souvent des fermes qui prenaient feu. La paille, le foin, tout ça, ça prend bien feu. Ce qui était intéressant de voir, c'est que mon père était pompier et une semaine par mois, il était de service. Il rentrait du travail et il me disait je vais prendre le téléphone parce qu'en fait c'est lui qui recevait les appels et lorsque j'entendais les appels des gens, c'était souvent très paniqué et on le comprend, que ce soit pour des accidents ou pour un feu qui se déclenchait chez eux, et mon père était obligé de les calmer au téléphone d'abord pour qu'il donne exactement l'adresse parce que c'était quelque chose d'important, savoir où aller. S'il n'avait pas l'adresse, il n'avait pas l'adresse. Et l'appel et l'engagement de ces hommes, que je vois encore souvent quand ils viennent distribuer les calendriers, et je leur parle toujours parce qu'on parle comme ça, c'est mieux. Et je voudrais vous parler d'un homme qui a entendu cet appel et qui s'est engagé, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est un prophète, souvent on l'appelle comme un prophète de malheur, parce qu'il va annoncer des choses pas du tout intéressantes pour le peuple d'Israël. Et voyez son nom qui veut dire « Dieu va relever, Dieu va rehausser ». C'est l'époque où les deux nations d'Israël, les deux nations sont séparées. Il y a Israël et Juda, et ce royaume est divisé. Et donc, des empires autour essaient de prendre toujours... cette terre qui est une terre extraordinaire parce qu'elle est un lieu de passage et une terre très fertile. Et donc c'est une convoitise entre les royaumes qui sont à l'est et l'Égypte. Et donc c'est toujours une lutte d'influence entre la Syrie et l'Égypte, ensuite par Babylone qui va défaire les Assyriens et les Israélites qui sont là au milieu savent plus trop comment faire. Hein, parfois ils s'allient à l'Égypte, l'ennemi traditionnel, et puis ils font des bêtises. Et Jérémie va essayer de leur expliquer. Mais l'appel que va recevoir Jérémie, il est extrêmement instructif. Et on va le lire ensemble. C'est dans Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 9. Regardez comment Jérémie reçoit cet appel et comment va être sa réaction à cet appel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis: ah, Seigneur Éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit: ne dis pas « je suis un jeune garçon » car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: « voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » On pense toujours que Jérémie était un super-héros. En fait, il était très humain. Et dans le cadre de son ministère, il ne va pas pouvoir s'empêcher de se poser des questions sur le sens de son existence, malgré qu'il ait déjà reçu cet appel du Seigneur. Et se poser aussi des questions sur la souveraineté de Dieu. Est-ce que Dieu est puissant pour me donner la force d'être un prophète et d'aller annoncer quelque chose au peuple? Il va se poser ces questions aussi sur le sort du peuple qui l'entoure. Qu'est-ce que va devenir Juda? Qu'est-ce que va devenir Israël? Et il va surtout se poser des questions sur son engagement. Et vous le voyez déjà, lorsque Dieu l'appelle, il dit « Ouais, mais je suis un gamin, comment est-ce que tu veux que j'aille voir le peuple, les anciens, pour aller les prophétiser ?» Et c'est vrai que l'époque où vivait Jérémie était une époque troublée. La plupart des Judéens, c'est-à-dire même de la tribu de Juda, eh bien, ne veulent plus rien savoir des traditions et des pratiques morales que leur père leur avait données et que leurs ancêtres respectaient. Les Judéens, les gens de Juda, sont dégoûtés, lassés, et ils veulent tracer leur propre route. C'est pour ça qu'à un moment, ils ne veulent plus compter sur Dieu et ils veulent aller s'allier à l'Égypte pour se battre contre la Syrie. Et donc, la nation dans son ensemble, eh bien, s'est détournée de la foi dans le seul vrai Dieu. Et ils vont choisir d'adorer un nom illimité de divinité. Alors, ce qui est en horreur à Dieu, c'est que son peuple adore d'autres divinités. Bien dans notre société, nos contemporains adoptent exactement le même comportement, similaire à celui des auditeurs de Jérémie. Une grande partie de la génération actuelle rejette l'héritage, je dirais, judéo-chrétien de nos sociétés. Et nous fabriquons nos propres règles, et le mot d'ordre, c'est « si c'est bon pour toi, c'est bien ». Nous croyons que nos valeurs sont relatives. Combien de fois ai-je entendu « oh ben, tu crois, tu es religieux, c'est bien pour toi, mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Parce que notre société pense que ce sont des valeurs relatives. Et souvent, la société résiste à l'autorité. Même nous, en tant que chrétiens, parfois, nous résistons à l'autorité de l'enseignement des Saintes Écritures. Finalement, ce qu'on croit importe peu du moment qu'on est sincère. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais la sincérité n'est pas le signe de la vérité. Il y a des gens sincères qui sont dans l'erreur. Et c'est l'illusion qui prédomine. Alors, quel est l'engagement de Jérémie? Eh bien, vous savez que le mot engagement, ça veut dire une promesse par laquelle on s'engage. On est lié par une promesse. C'est ça, un engagement. L'engagement de Jérémie va être le suivant. Il va rester fidèle malgré ses peurs, malgré ses craintes, malgré ses doutes, malgré les difficultés de l'époque où il vit, et il va annoncer les oracles. Même si ça va lui coûter cher. Alors, notre engagement à nous, à la manière de Jérémie, eh bien, c'est que nous devons apprendre à rester les yeux fixés sur notre Seigneur. Nous devons rester accrochés aux principes et aux vérités que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Et nous devons continuer à croire en lui, même quand tout nous détourne de lui. Le mot « engagement » ou le mot « s'engager » dans la Bible est extrêmement fréquent. C'est une valeur que nous demande, que Dieu nous demande d'avoir, nous engager. Alors, il y a un passage dans la Bible qui est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, et que vous avez sur le petit papier qu'on vous a donné à l'entrée. C'est l'apôtre Pierre qui parle du baptême. Il dit « c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. » Alors pourquoi est-ce que Pierre utilise cette image? En fait, vous connaissez tous l'histoire de Noé, hein, qui va construire une arche pour sauver lui et sa famille et les animaux. Et il va enduire cette arche d'une espèce de bitume, hein, de poids, pour que cette arche ne prenne pas l'eau. Et ça va être ça qui va les sauver. Mais vous savez que c'est le même mot que va utiliser, qu'on voit dans l'histoire de Moïse, lorsque la mère de Moïse va mettre Moïse dans cette petite nacelle, ce petit berceau en osier, elle va l'enduire aussi de poids, de bitume, pour sauver. Et c'est la même racine pour l'histoire du baptême. Le baptême qui sauve. Alors, à l'époque de Jérémie, c'était une nation qui faisait, une nation entière qui faisait alliance avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas à une nation moderne de s'engager avec lui. Aujourd'hui, seuls les individus font alliance avec lui. C'est une alliance personnelle que nous avons avec lui. Et notre alliance avec lui, avec Dieu, elle est appelée la nouvelle alliance. Elle repose sur le don de la vie éternelle que Dieu nous promet indépendamment de tout mérite personnel, de toute action ou de tout rite religieux ou de tout sacrement. C'est sur la seule base du sacrifice de Jésus que nous pouvons rentrer en relation avec Dieu. Et il est mort, Jésus, une fois pour toutes. Alors, en tant que chrétien, quels sont les signes de notre engagement? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de signes visuels de notre engagement. Je dirais qu'il y en a trois. Il y a notre conduite. Ça, c'est un engagement. On a déjà traité plusieurs fois de ce sujet. Notre conduite qui doit être réglée et impressionnée par l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Ça, c'est l'engagement. La deuxième chose visible, le repas du Seigneur. On en a parlé déjà. Vous savez que pour avoir un repas du Seigneur qui corresponde exactement à ce que Dieu nous demande, eh bien, il y a la repentance de nos péchés. On vient là avec humilité. Hubert nous a parlé de toutes ces choses horribles qui se sont passées au XXe siècle. Mais nous aussi, nous avons des choses horribles dans nos vies. Peut-être pas avec les mêmes conséquences qui se sont passées. Nous avons des choses à nous faire pardonner, la repentance. La façon dont nous vivons encore une fois notre vie de chrétien. On ne peut pas venir prendre le repas du Seigneur et puis sortir de là et faire comme si ça n'avait pas existé. Et puis bien sûr, notre engagement par le baptême. Le baptême biblique qui nous est enseigné dans les Saintes Écritures, qui fait suite à une prise de conscience claire, après avoir pris connaissance des textes des Saintes Écritures, qui se fait par immersion, les confessions de sa foi en Jésus-Christ, ça. Et il est toujours à la demande personnelle de quelqu'un de responsable. Dieu fait une alliance personnelle avec nous. Il ne fait pas une alliance avec une nation ou avec quoi que ce soit. Et ce n'est surtout pas un processus complexe qui se fait par étapes progressives, où il y aurait des validations de ces étapes, non. Le baptême, c'est tout simple. Reconnaître que Jésus est notre Sauveur. On le voit bien après le discours de Pierre. Vous voyez, après la Pentecôte, les Juifs sont là, ils se posent des questions, et Pierre va faire un discours pour raconter toute leur histoire. Toute leur histoire. L'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire de Jésus. Et il va dire ça en Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà la réponse à l'appel que Dieu lance et nous lance et l'engagement que nous prenons. Alors, quelle est la nature de cet engagement ? Est-ce que l'appel que Dieu me lance touche mon cœur ? Est-ce que nous avons le cœur vivement touché par les paroles des Saintes Écritures ? Ou alors, est-ce que mon cœur est troublé, Est-ce qu'il y a des barrières qui sont dues à ma tradition culturelle, à mon péché, qui ne me permettent pas que j'entende cet appel? Nous ressemblons beaucoup à Jérémie. Combien de fois je me suis dit, tiens, on aurait dû m'appeler Jérémie. Lorsque Dieu me demande d'accomplir quelque chose de difficile, ma première réaction est souvent de chercher à faire comprendre à Dieu pourquoi je ne peux pas le faire. Je lui explique, oh tu sais, j'ai pas assez d'expérience pour faire ça, c'est pas la peine, je serais incapable de faire ça. Je suis pas assez connu pour parler, j'ai peur. Les gens vont détester ça. Et puis je vais manquer de conviction. Je ne vais pas être assez puissant dans ma démonstration. Je vais choquer ma famille parce que je ne suis pas exactement ce que mes parents auraient désiré que je sois. Je vais vous raconter une confidence qui à l'époque m'a fait tellement mal. Lorsque j'ai été, on va dire, aspergé dans la tradition catholique, j'ai été aspergé avec un ou deux jours de retard parce qu'il fallait que ça soit fait un mois avant. Je ne sais plus si c'est encore comme ça. Et lorsque on est sorti de l'église, les cloches n'ont pas sonné pour mon baptême, mon aspersion. Et quelques années plus tard, quand j'ai rencontré le Seigneur, ma mère a dit « Ah, c'est pour ça qu'il a mal tourné en religion. » C'est difficile, vous savez. Vous êtes dans une famille qui a des traditions, d'aller contre, c'est difficile. Mais la peine de Dieu est plus forte que ça. La peine de Dieu va surpasser ces barrières. Mais il faut que vous ayez le cœur vivement touché. Si vous n'avez pas le cœur vivement touché, les barrières vont être autour de vous. Et vous ne pourrez pas passer ces barrières. Alors, quelle que soit la manière de présenter nos objections, notre but souvent est d'échapper à cet appel. Jérémie, il veut convaincre Dieu que son âge le disqualifie. C'est trop jeune. Vous avez vu ce que répond Dieu ? Timé, pourquoi tu me dis ça à moi ? Moi, Dieu, moi, je te dis que tu vas être capable de le faire. Et en ce sens-là, Jérémie ne tient pas compte de la puissance de celui qui lui parle, ni de sa capacité à utiliser qui il veut. Jérémie ne regarde qu'à lui-même, à ses défauts, à ses lacunes, à ses lâchetés. Alors, c'est vrai que comme Jérémie, bien notre premier réflexe face aux sollicitations du Seigneur, au plan qu'il a pour nous, eh bien, nous oublions la puissance et la fidélité de Dieu. Et nous passons à côté du plan du salut que Dieu a prévu pour nous. Et il nous dit, ne craignez rien, car il est avec nous pour nous délivrer, comme il avait dit à Jérémie. Ne crains rien, Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Il faut que nous ayons absolument le cœur vivement touché. Et je fais un appel à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris cette décision d'avoir un cœur ouvert et de donner votre vie au Seigneur, d'y réfléchir, parce qu'il y va de votre salut. Alors Seigneur, il faut que tu nous aides dans nos vies de chrétiens. Nous avons pour la plupart répondu à cet appel, mais il faut que tu nous aides à tenir nos engagements. À croire que même dans les difficultés, même dans toutes les barrières qui se dressent autour de nous, dans notre société, qui va à l'envers de ce que nous essayons de vivre, il faut que tu nous aides, Seigneur, à ce que notre cœur soit continuellement, vivement touché par ton amour. Et je voudrais qu'on prie ce matin pour que Dieu nous aide à vivre l'amour qu'il nous donne et l'engagement qu'il nous demande. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour toutes tes bénédictions que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous te remercions pour Nous te remercions parce que tu connais nos défauts, nos lacunes, nos péchés. Et Seigneur, tu nous dis, ne crains rien, je serai là pour te délivrer. Seigneur, fais-nous réfléchir à notre salut, fais-nous travailler à notre salut, afin que le jour où tu reviendras, le jour où nous comparaîtrons devant toi, tu nous diras, viens, bon et fidèle serviteur. Seigneur, aide-nous à avoir ces paroles inscrites dans nos cœurs, afin que nous vivions ton amour et ta résurrection. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen.
Il y a quelqu'un qui nous a nous aider en tout cas dans notre projet de vie. Est-ce qu'il y a une utilité pour cette troisième personne de la vie?